La brochure.
La brochure.
La brochure.
La brochure.
La brochure. Eh bien, la dernière partie, on la recommence aujourd'hui. C'est la troisième partie d'un article qu'on a pris dans une review italien qui s'appelle Giornale Notti. L'article, il parle du début du fascisme en Italie. On va commencer.
Klaus Schrampf écrivait en 1932 un essai au titre éloquent « Dictature des données des faits » où l'on peut lire « Nous n'avons aujourd'hui plus aucun choix. Le pouvoir est passé des nomens vers les faits et avance vers nous sous sa forme précise, avec une brutale dureté. La décision est dans les faits. Notre vote, de son côté, a seulement une signification déclaratoire et non constitutive. Aujourd'hui, les discours racistes se présentent comme une expression de bon sens, de ces saines réalismes qui dérivent de la dureté des faits et les votes à un sens toujours plus déclaratoire. Comme il s'agit d'une tendance internationale, elle nous informe sur les points de rencontre entre les exigences de l'État et un écheveau des besoins et des désirs de ceux qui sont en bas. Quand elle parle de la classe dominante, elle dit explicitement ce que pendant des dizaines d'années on a préféré mystifier, à savoir que la politique ne peut plus faire sans les couples amis-ennemis avec les conséquences qui en dérivent. Il est juste et nécessaire d'affirmer que les mouvements sur les tableaux de commandes ne peuvent être séparés du vaste réseau des ramifications dont il naît. Ne pas en noter les effets et la portée serait tragique. Après des siècles, le capitalisme industriel semble récapituler sa propre origine esclavagiste, longtemps incorporée et cachée sous certaines latitudes, dans les machines et les objets. Tous les plus importants théoriciens du libéralisme, de Locke à Mill, en passant par Tocqueville, ont été des soutiens de l'esclavage. Ce qui les a divisés, que l'on pense au conflit entre les colons américains et la couronne d'Angleterre, c'était si les esclaves devaient être relégués dans les lointaines colonies ou s'ils pouvaient respirer le même air que les blancs. Les développements du machinisme, les perfectionnements de ce qu'Aristote déjà appelait les esclaves mécaniques, a permis d'abord de séparer spatialement et racialement le peuple des seigneurs des peuples coloniaux, puis d'intégrer l'esclavage sous la forme du salariat. Mais cette séparation a continué d'opérer. Eux, en cas de crise, elle était transformée en énergie belliqueuse. Le racisme n'est pas que de la propagande mystificatrice, le cœur dissimulé de la civilisation du capital. Il est ce moment de vérité, celui où les faits muets sont accomplis par ces machines. Mais il nous raconte aussi une longue histoire de défaites révolutionnaires. Entre la seconde moitié du XVIIe siècle et le début du XIXe, comme l'explique de manière passionnante le rebelle de l'Atlantique, les déportés irlandais, esclaves africains, révolutionnaires haïtiens et peaux rouges d'Amérique se sont rebellés ensemble, donnant vie à des expériences égalitaires, des communes armées, des nègres de par conditions sociales ou leur esprit rebelle. Alors que pour Locke, Mandeville et CIA, ils étaient tout indistinctement des sauvages, des utiles bipèdes mis à disposition des propriétaires par Dieu. La différence entre un mineur écossais et une servante dominicaine sous contrat et un esclave africain était une question de grade, pas de substance. Face aux luttes pour l'émancipation qui accompagne la naissance du capitalisme et dont la forme de revendication était l'émeute, la bourgeoisie libérale joue alors la carte de la cooptation du propriétaire blanc. À une première phase de répression brutale, d'emprisonnement des masses et de déportation, succède une seconde au cours de laquelle s'impose un pacte jamais écrit. Si tu acceptes de te désintéresser de ce qui arrive aux peuples coloniaux, toi aussi, prolétaire blanc, tu pourras tranquillement bénéficier des droits de notre démocratie pour les peuples des maîtres.
Ce n'est pas un hasard si cette cooptation se réalise alors que l'idéologie du progrès et la vision émancipatrice du développement technologique triomphent. Les votes des crédits de guerre que la social-démocratie assure en 1914 est sans doute l'emblème de ce processus de cooptation, petit avant-goût de la grande nationalisation des masses tout au long du XXe siècle. Le rôle joué par l'idéologie de la non-violence constitue un chapitre à part de cette histoire. Des exemples suffiront. Gandhi, qui pendant le premier conflit mondial fut un recruteur d'Indiens pour la couronne, a caressé longtemps l'idée de soustraire le peuple indien à la domination britannique par cooptation, en gardant le silence sur les massacres que l'État anglais commettait contre les Zoulous et soulignant la commune origine aryenne des Anglais et des Indiens. Les révoltes anticoloniales lui firent changer son fusil d'épaule. Un autre cas exemplaire est celui de l'American Peace Society, une association de blancs opposés sur des bases essentiellement religieuses à l'esclavage, mais aussi à l'usage de la violence pour y mettre fin. Quand les esclavagistes des États du Sud traversèrent en long et en large les USA pour capturer les esclaves en fuite, tirant sur quiconque leur offre l'hospitalité, ces hommes pieux durent décider comment traduire en pratique leurs principes. Bien peu sont ceux qui choisirent la route de John Brown, celle de s'armer contre les esclavagistes. Ils se rangèrent du côté de Lincoln et de la sanglante guerre de sécession. L'esclavage fut déplacé au Mexique, puis remplacé progressivement par l'esclavage contractuel des coulisses africains et asiatiques. Entre 1830 et 1910, 20 millions d'Indiens furent déportés vers les États-Unis d'Amérique. Ce qui est arrivé pendant la résistance en Italie indique bien comment la cooptation continue même entre ceux qui empoignent des armes pour la liberté. Dans l'immensité des documents produits par les organisations résistantes, on ne trouve pas une seule déclaration anticolonialiste qui pose les problèmes des crimes de guerre des Italiens en Yougoslavie, en Grèce, en Albanie, en Russie et en Éthiopie. L'exterminateur Badoglio fut même parfois rangé dans les camps du bien.
Si aujourd'hui la Lega est bien un contre-coup à la détérioration des conditions de vie et de travail imposées par la concurrence capitaliste mondiale avec l'aval des partis sociaux-démocrates, résonne aussi en elle la cooptation des exploités au sein de la démocratie du peuple des maîtres, qui ne date pas d'hier. Et ce n'est sûrement pas avec des proclamations et des bavardages que l'on s'opposera à tout cela, un nouvel internationalisme. Si l'on peut dire que les plans d'austérité sont à notre époque ce que le traité de Versailles fut aux années 20, action géopolitique produisant un appauvrissement des classes moyennes et prolétaires, on aurait cependant du mal à trouver un équivalent de nos jours à ce qui fut alors le spectre de la révolution sociale. Peut-être faut-il chercher du côté de l'intériorisation de l'imminente catastrophe écologique, que le confort technologique tend cependant à faire taire, mais qui stimule la production d'une furie montante et comprimée, selon la définition du fascisme donnée par Ernst Bloch.
Hérédita di questo tempo, 1935.
Vu que la barque est à la dérive et que les ressources à bord sont limitées, la brutalité de la lutte pour survivre, nous d'abord, apparaît comme un acte de bon sens. Écologie et fascisme, progressisme et réaction dansent désormais ensemble un vieux tango. Certains écolos prônent déjà des mesures impopulaires. C'est de là que surgit l'esprit philistin et homicide du petit bourgeois. Le pouvoir totalisant de la technique présuppose la pression de la masse. C'est un processus de massification permanent. Voilà quelle sera la voie royale parcourue par la tyrannie fasciste en tant que dictature exercée au nom des masses, sur les masses elles-mêmes, portée à un état de noire incandescence par la mobilisation totale. Méditons aujourd'hui.
Ferruccio Masini
écrivait pour commenter les textes de Jünger.
Gli schiavi di Efesto, l'avventura degli scrittori tedeschi nel Novecento.
Si le pouvoir de la technique comme tactique de la vie entière, Spengler, est encore plus totalisante, les masses se sont décomposées sous la pression de ce pouvoir en une fourmilière d'humains tout seuls, en une mare d'atomes technologiquement connectés. Mais même s'il manque des espaces pour la rencontre, et donc l'expérience en commun, la massification continue de produire et comprimer les tensions. Cette boue, dans son absolu déchaînement et dans sa discipline impitoyable, il n'y a pas ici un seul atome qui ne soit pas au travail. Et nous nous sommes abandonnés jusqu'à la moelle à ce processus furibond, la mobilisation totale.
Il ne fait pas de doute que pour combattre les formes actuelles de fascisme, je parle de ce qui se joue à niveau de la société et non des prétendues révolutions des appareils du pouvoir, nous ne devons pas former des alliances avec ceux qui ont toujours justifié ces processus furibonds, même tacitement. Or, les périls d'un front antiraciste semblent bien réels. Il ne s'agit pas ici de sous-évaluer la force de la Lega, mais de s'y opposer de manière autonome. Je suis même convaincu que plus nous tarderons à agir clairement et résolument contre ces forces réactionnaires, plus le front démocratique grandira dans les années à venir. Sur ces problèmes, les références historiques n'aident pas forcément. Salvini n'est pas Bava Beccaris. Bava Beccaris a été le général qui, pendant les émeutes du Pen à Milan, dans les 1898, il a ouvert le feu avec les canons armés à mitraille. Il a tué des centaines et centaines de pauvres qui demandaient seulement le pain. Eh bien, je disais, Salvini n'est pas Bava Beccaris. D'abord parce que ce dernier était un militaire et non un ministre. Ensuite parce que le canonnade de Milan était la réponse étatique à un mouvement pré-insurrectionnel déclenché par la hausse des prix des denrées. En enfin, parce qu'à l'époque, personne, même les commerçants les plus réactionnaires, n'écrivait sur les murs « Viva Bava Beccaris ».
Walter Benjamin notait en 1931 la grotesque sous-évaluation de l'adversaire dit bien à quel point la bataille de cette intelligentsia radicale de gauche est perdue d'avance. C'est justement dans les alliances avec d'autres secteurs de la classe dominante que se manifeste cette sous-évaluation. Sans une poussée violente qui est les méthodes et les principes de l'émancipation, la boue raciste continuera de s'étendre. Il n'y a pas de repli institutionnel qui tienne. Il s'agit donc de faire parler les faits, c'est-à-dire montrer, au-delà des principes qu'elle déclare, les effets réels de la démocratie, mais aussi de forcer, par l'action, la réalité à parler clair. Si le racisme constitue à la fois l'explicitation du rôle prédateur de l'appareil technologique, impérialisme progressiste, et l'illusion de pouvoir se mettre à l'abri de la concurrence globale que celui-ci déchaîne, protectionnisme et souveraineté, nous sommes donc devant un conflit historique. Mais entre ceux qui promettent des abris comme simple réponse et nous qui voulons au contraire changer les questions, l'asymétrie des forces pourrait difficilement être plus grande. Reste le fait que cet appareil broie des milliards de vies, même si elles n'ont que peu de poids pour le peuple des maîtres. Ajoutons à cela que dans les périodes les moins pacifiées, la nécessité de consentir ou de refuser explicitement se faisant pressante, les conduites individuelles doivent cesser d'être muettes. Au fond, il y a une disproportion encore plus grande dans le combat entre les jugements de valeur et la dictature des faits. Qu'est-ce que cela voudra dire, par exemple, que de se proclamer anti-esclavagiste quand les propriétaires d'esclaves commenceront à tirer à vue contre les amis des nègres? Une chose est certaine, si bien résumé par le membre des GAP,
Franco Calamandrei.
Il faut lutter et lutter pour que la disproportion soit terrassée.
Bien, on est arrivé à la fin. Ça a été un peu long, plutôt théorique. Et moi, j'ai lu les phrases en italien parce que la copine m'a demandé de le faire. Je ne me suis pas pris les trucs, voilà, j'ai juste une petite soulignature. Et bon, c'était une petite... Non, c'est pas été une petite leçon d'histoire, c'est l'analyse d'un cher compagnon qui vit en Italie, qui l'écrive avec autres chers et chéris compagnons et compagnonnes sur cette petite revue qui s'appelle « I giorni e le notti ». J'espère d'avoir un peu fait de la lumière sur ce que ça passe en Italie. Cet écrit-là, il a à peu près 2 ans. Maintenant, Salvini n'est plus le premier ministre n'est pas, pardon, le chef de la police. Il est seulement le chef de son parti, d'esseuse, raciste et pire encore.
Et bon, toutes les trois lectures, comme toutes les autres émissions de la brochure, vous pouvez les revoir dans les podcasts des Radio Centre d'Afrique. À la prochaine fois. Ciao tout le monde.
Bonne journée.